Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce jeudi 14 septembre et 20h pétante. C'est l'horaire de votre quotidien sportif qui est Time Sport chaque soir sur l'antenne de la radio de la diversité, votre radio préférée, chers auditeurs et auditrices. Au menu de cette émission ce soir, on va parler de quoi ? De l'Olympique Lyonnais et ses fameuses querelles en interne et en externe aussi. Hein. On va revenir sur le cas de Paul Pogba. Eh oui, l'international français, son équipe de France, la bande à Didier Deschamps. Sans oublier ce soir, hein, c'est la France qui sera face à l'Uruguay. Un petit clin d'œil à toute la troupe d'Adid Farkan, en la personne aussi de Jérôme, de Gamal. Sans oublier aussi monsieur David Nemaski. Voilà, on en cite un peu, mais beaucoup. Téléphone, c'est quoi ? C'est le numéro du standard, c'est le 01 53 48 3000. C'est le numéro de ce standard où on pourra retrouver ce soir, après Adil et la bande désinformée, hein, chaque soir, 19h, 20h, c'est voilà, toute l'équipe d'Adil. Mais là, c'est Foudil que nous avons quitté. C'est Foudil, hein, Foudil qu'on peut retrouver chaque matin. Mais là, c'est Solal, voilà, que nous retrouvons. Solal, il revient de vacances tranquillement avec sa fine coupe. Solal est avec nous ce soir. On va parler, bon, je ne sais pas si on parlera du Paris Saint-Germain, mais en tout cas, on reviendra avec lui et avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, sans plus tarder, on va commencer cette émission en abordant le premier dossier.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Ouais, déjà ça commence à gesticuler, à se déhancher, on ne sait pas pourquoi.
Mais bien sûr qu'on va parler du Paris Saint-Germain.
Ouais, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain avec la forme, ou peut-être la méforme du 15 de France. On verra. Le match fait face aux All Blacks, bon, ça promet face à l'Uruguay, mais on nous dit que l'Uruguay c'est un peu le bis des Pumas de la sélection argentine. Ce soir on est en compagnie, eh ben justement, vous l'avez reconnu, c'est Samir Diabali. Comment ça va, Samir ?
Salut Bilal, salut à tous, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices. Bon, ça va super, on espère. Espérant faire un petit mot sur le Paris Saint-Germain, j'y tiens, et l'Olympique Lyonnais évidemment.
Oui, l'Olympique Lyonnais, il y a tant de choses à dire. Le Paris Saint-Germain, si tu veux, pourquoi pas, gars, joyeux anniversaire aussi. Anan, ça va ?
Bonsoir, comment ça bonsoir, va ? Bonsoir, Anan. Oui, ça va, très content d'être là. Parmi ce fabuleux plateau, donc.
Ouais, là, c'est la Ligue des Champions, j'ai l'impression. Exactement. Ouais, on a un petit peu peur de parler.
Plus table de poker.
Ouais, table de poker. Oui, aïe. Attention, l'abus, c'est pas bon. On est avec Toto Bellozzo, qui fait sa rentrée, Toto Bellozzo. Ouais, salut, bonsoir, Bilal. Toto Bellozzo.
Bonsoir, Bilal. Ça fait plaisir aussi, j'allais dire, de retrouver le terrain, mais c'est presque une partie de foot qu'on va faire, là. Il y a tous les postes.
Nabil est avec nous. Nabil, comment ça va ?
Bonsoir, Bilal.
Il fait sa rentrée, Nabil.
Oui, avec plaisir, ça me fait plaisir d'être parmi vous.
Ah ben nous aussi, Nabil, de t'avoir avec nous. Tout comme Mourad, juste en face de Nabil, qu'on peut retrouver. Mourad, comment ça va ?
Bonsoir, Bilal, bonsoir à tous. Bah, ravi d'être là, très beau plateau. Eh oui. Comme l'a dit Toto, c'est une vraie partie de football. On a l'impression d'être en 4-4-2, là. On est bien organisé et prêt à en découdre, justement, pour enchaîner. Par contre, je suis comme Samir. Il faudra aborder le Paris Saint-Germain parce que c'est demain, je crois, il me semble que c'est les adieux d'un très grand joueur du Paris Saint-Germain. Ouais. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre.
Ah ben si justement, on a le temps. Il y avait la conférence de presse en plus aujourd'hui.
C'est ça. Et Luis Enrique a confirmé qu'il y aura bien un hommage pour Marco Verratti demain.
Voilà, Marco, international italien. Un petit clin d'œil aussi à la réalisation. Allez, le 0153483000. C'est. Il est là, il est avec nous.
Pourquoi tu rigoles, Bilal ?
C'est non, qui c'est j'ai cru que t'allais dire Rachid Boulawan.
Non, pas Rachid Boulawan. Non, pas Rachid Boulawan, mais peut-être qu'il nous écoute ce soir. C'est Tahar Rahim. Il a un air de Tahar Rahim. Il a son sourire, en tout cas, Solal.
Belle coupe de cheveux.
Ouais, il a une belle coupe de cheveux. Ouais.
Ah bah,
ouais,
ça fait comment plaisir ça va, de Solal. Revenir déjà dans un premier temps. C'est un immense bonheur que de revenir, voilà, et de repouvoir fouler ce sol qui est dans les locaux de Beurre FM. Moi, c'est toujours un plaisir d'être avec Bilal, mais avec son plateau qui est extraordinaire encore ce soir. Ben oui, incroyable. Comme il a dit, 4-4-2, ben voilà, là on y est.
Donc, on y est.
Exactement.
On va s'attarder sur le premier dossier avec Mourad, justement. Nous abordons le cas de Lyon. Et oui, on s'aperçoit que l'Olympique Lyonnais, Mourad, n'y arrive plus. L'OL n'est plus ce club triomphant, peut-être, que l'on a connu.
Je pense qu'à force de mauvaise gestion, bah ça influe en fait sur les mauvais résultats. Et il n'y a qu'à voir, je pense que c'est aujourd'hui qu'a été nommé Fabio Grosso. Donc pour moi, on est vraiment dans un total déclassement avec la nomination de Grosso. Je pense qu'en termes d'expérience, je crois que c'est Frosinone, c'est ça ? J'ai toujours du mal à le prononcer, même s'il les a fait monter en Serie A. Je pense que de par son parcours, je pense que c'est un déclassement pour l'Olympique Lyonnais. Après, ouais. Que dire, ben, l'Olympique Lyonnais, ça fait depuis la toute fin du mandat Jean-Michel Aulas, en passant par la transition vers Textor jusqu'à sa prise en charge avec la nomination de Laurent Blanc, on est vraiment dans des guerres intestines. Il y a les supporters contre les joueurs, il y a des coachs instables. Donc voilà, il y a aussi le choix de John Textor, même si Jean-Michel Aulas, il a aussi ses torts. Mais pour moi, Textor, c'est peut-être pas le choix le plus adapté. J'ai l'impression qu'on est dans du... C'est un peu un mercenaire de la finance. J'avais appris d'ailleurs, justement, j'avais été surpris, juste pour citer un exemple qui va un peu peut-être illustrer la position de Textor, c'est qu'il a emprunté de l'argent, par exemple, au propriétaire de Bournemouth, qui est actionnaire au FC Lorient. Ça aurait été impossible à l'époque de Jean-Michel Aulas, qui était vraiment souverain sur son club. Il l'a lancé en bourse en 2007. Ils étaient en avance surtout à l'époque, l'Olympique Lyonnais. Et là, ils sont derniers du classement.
Il a fait remonter Molenbeek aussi en Jupiler des
Gars. Oui, mais là, on est sur le multipropriété. Et c'est pas vraiment les modèles à copier. Là, j'ai l'impression qu'il veut copier, qu'il veut calquer Citigroup. Mais avec Molenbeek, je crois qu'il est Botafogo, c'est ça.
Exactement.
Et 40% de Crystal Palace. Je sais pas si on arrivera à quelque chose de pimpant d'un point de vue sportif. Donc ça, c'est juste pour les à côté. Ouais. Après, Laurent Blanc, il aurait pu le virer après le Paris Saint-Germain. Pourquoi il a pris autant de temps pour le mettre à la porte? Là, il nomme Grosso alors qu'on reprend la Ligue 1 là ce week-end. Donc, je pense que c'est encore une perte de temps. Donc il y a de gros soucis. Je vais laisser mes collègues évoquer l'Olympique Lyonnais, mais il y a de gros soucis à l'Olympique Lyonnais et c'est pas fini.
C'est pas fini.
Bah c'est vrai qu'ils étaient justement sur le gars Gattuso. Sur le cas Gattuso. Et Grosso, en fait, le choix de Grosso, il n'est pas si novice que ça. Hein. Si on regarde justement son parcours qu'il a fait, effectivement, moi je pensais qu'il était vraiment jeune entraîneur, etc. Et il a quand même fait quelques clubs, qui est notamment Bari, la Vérone, Brescia, le FC Sion.
C'est des clubs de série B. Hein.
On est totalement d'accord.
On parle d'un club coté en bourse depuis 2007. Qui a des qui dans son palmarès qui a fait des demi-finales de Ligue des Champions. Je pense qu'on va un peu trop vite en besogne.
Exactement. Moi, le seul souci qui me gêne, c'est que on laisse Aulas tranquille en disant voilà, ils ont dégagé Aulas, etc., etc. Mais c'est quand même Aulas qui choisit justement cet actionnaire qui lui a vendu le club et qui aurait dû faire des recherches un petit peu sur son type de gestion par rapport aux autres clubs. Et à un moment, tu peux pas laisser le club comme ça au plus offrant. Tu dois aussi t'assurer que derrière il y aurait une bonne gestion.
C'est tous les méfaits des investissements. Regarde. Le FC Sochaux Montbéliard, pareil, ils auraient peut-être un peu plus investigué sur le propriétaire immobilier chinois. Des fois, ça se fait pas. Des fois, il y a l'argent qui est aveugle un peu.
Aulas, on m'a dit qu'il y a des rumeurs comme quoi ils disent qu'il était obligé de vendre, mais que c'était pas aussi sa décision, en tout cas, de vendre, qu'il était vraiment au pied du mur pour pouvoir.
Il était dans des pertes colossales.
Ouais, après, ouais, exactement.
Avec Nabil et
Moi, je pense que le pari, il est totalement pour Grosso. Il est pas pour l'Olympique Lyonnais. Effectivement, Grosso aujourd'hui, il se retrouve dans un club.
Il arrive demain, Mourad.
Top 3, top 4 du football français historiquement, en tout cas, on est tous peut-être d'accord là-dessus autour de ce plateau. Effectivement, il n'a pas eu ce style de club en Serie A ni en Serie B, on peut le dire aussi. Et aujourd'hui, il se retrouve au milieu d'un projet à l'Olympique Lyonnais où rien ne va à tous les étages. Et moi, c'est ce qui me perturbe. Moi, je pense que Jean-Michel Aulas, effectivement, au bout de je ne sais combien d'années de présidence à l'Olympique Lyonnais, il est arrivé à un moment donné où il a senti que c'est bon, fallait lâcher le club. Il l'a lâché au bon moment. Il s'est totalement ce qu'il fait. Et aujourd'hui, on parle d'un Olympique Lyonnais en déclin sur les 2, 3, 4 dernières années, mais moi j'ai vu un déclin de l'Olympique Lyonnais.
Alors quand
à partir du moment où il y avait la grosse époque Benzema, Juninho, Diarra, Essien, tout ce que tu veux, ça remonte à loin. Depuis qu'on a changé la politique en fait de ce club et qu'on s'est dit on lâche les gros joueurs et on part sur la formation et on essaye de former des joueurs et ensuite les lâcher, etc. Depuis cette époque là ça ne va plus à l'Olympique Lyonnais, tout simplement.
Il n'y a pas eu l'histoire justement les mêmes mots que Arsenal a eu en construisant leur club, où ils devaient un petit peu réduire leurs finances et justement plus miser sur la
formation
lyonnaise.
Je pense que l'Olympique Lyonnais, dans le football français historiquement, c'est un club important. À partir du moment où tu as peut-être le meilleur président de France avec qui repose en paix Loulou Nicolin, les supporters qui ont suivi Jean-Michel Aulas depuis des décennies en fait dans son projet, tu sais aujourd'hui les supporters ce qu'ils veulent c'est un club qui a des résultats sportifs, un club qui les rend fiers et surtout des joueurs qui collent à l'image du club de la ville Ils veulent, ils recherchent une identité. Et l'époque que je t'ai citée, c'est une époque où les supporters se reconnaissaient à travers l'équipe. Là, tu as entendu le discours il y a pas très longtemps d'un des speakers d'un des supporters d'un COP de la tribune lyonnaise, où il dit il y a quelques années, en fait, on se reconnaissait à travers les joueurs. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas les résultats escomptés.
J'ai cru qu'il avait des parts dans le capital de l'Olympique Lyonnais.
En plus, parce qu'il investit, parce que son cœur, est tellement lyonnais qu'il est déçu de ce qu'il voit. Et moi, je pense même qu'aujourd'hui, les supporters lyonnais, c'est même plus une question fait de gros joueurs qu'ils n'ont plus, etc. C'est qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe à l'Olympique lyonnais à tous les étages. Ça fait des années que ça ne va plus en termes de présidence, dans les choix du coach qu'on va sélectionner. Alors, on peut taper sur Laurent Blanc comme on veut, mais on laisse quoi aujourd'hui au coach le Texor, on l'a cité la dernière fois, Bilal, lors de la dernière émission. Il préfère aller aux États-Unis à la fête du travail plutôt qu'assister à un gros match de l'Olympique Lyonnais, et ça montre entre guillemets l'implication de l'investisseur du club. Il n'y a rien qui va dans ce club. Et c'est en tout cas, en sportivement parlant, et je vais un peu parler de sportif, c'est pas étonnant ce qu'on voit à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a rien qui va à tous les étages.
Toto Bellozzo avec justement Nabil.
Tout à l'heure, tu faisais allusion au passé de l'Olympique Lyonnais, passé glorieux. La problématique des clubs français, c'est qu'ils s'inscrivent, la plupart, pour les gros clubs, s'inscrivent dans le passé. C'est-à-dire qu'on parle de Saint-Etienne, Reims, Marseille et même Lyon. Malheureusement, c'est des clubs qui se conjuguent au passé. Avec un Paris Saint-Germain qui aimerait se conjuguer au futur, malheureusement, on n'a pas de club dans le présent. Et si on regarde l'Olympique Lyonnais dans le présent... C'est un club qui est un petit peu à un virage, peut-être pas de son histoire, mais en tout cas d'une partie de son histoire, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais est certainement dans les gros clubs français, le plus français des clubs depuis longtemps, de par ses investisseurs, de par les entraîneurs,
de par sa frange de supporters aussi.
Ça c'est encore autre chose. Mais je connais tes petites talonnades, tes petites fadières. Mais non, il y a pas de souci là-dessus. Moi, je sais que l'Olympique Lyonnais a toujours voulu s'inscrire comme étant un club français. Aujourd'hui, on a les investisseurs étrangers, un entraîneur étranger, et c'est vrai que c'est un petit peu nouveau à l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça va prendre ou pas? J'en sais rien. J'ai ma petite idée concernant Texor qui vient un petit peu du
monde. On est déjà dans une année de sauvetage là, tu le sens
bien
de
sûr,
début
bien
de
sûr.
Saison.
Non, mais sportivement, voilà, on peut même pas parler de demi-teinte. L'Olympique Lyonnais est l'ombre de ce qu'il était depuis longtemps. Maintenant, moi j'ai ma petite idée. Alors, je spécule beaucoup, j'extrapole beaucoup dans ce que je vais dire, mais faut pas oublier que l'Olympique Lyonnais a toujours voulu aussi être très souverain. Alors ils ont leur propre stade, ils ont toujours eu une forme d'autonomie concernant le centre de formation.
Un stade qui les a plombés aussi.
Un stade qui les a plombés, mais en tout cas la volonté a toujours été d'être dans l'autonomie, et je vais pas dire l'autarcie, mais presque. Et en ramenant quelqu'un comme Texor qui lui de base est un homme d'affaires qui vient du média américain, de la vente de matchs et ainsi de suite. Je sais que Olas a souvent fait allusion à une espèce de forme d'autonomie concernant les droits télé.
Exactement.
Et je ne sais pas s'ils ne sont pas en train de nous préparer avec Texor, peut-être l'avènement de quelque chose où l'Olympique Lyonnais essaierait de s'accaparer ses propres droits télé.
Nabil, avant la fin de cette première partie.
Ça fait un petit moment que Lyon est sur le déclin. Le responsable du recrutement est parti. Est parti. Donc Jean-Michel Aulas, il a cédé à un moment donné. Ça fait 3-4 ans que Lyon n'y arrive plus du tout au niveau de la Ligue des Champions. Avant, Lyon, ça faisait rêver, c'était minimum Ligue des Champions.
C'est vrai.
On se disait toujours, ça termine très très fort. Lyon, ça peut commencer mal, moyen, mais ça finit très très fort. Ils vont toujours recoller au peloton de tête parmi les trois premiers. Mais là, c'est plus le cas. Ça fait 3-4 ans qu'on attendait. Et là, ce qui est le pire de tout, c'est la cellule du recrutement. Elle change en permanence. On voit les jeunes partir. Moi, je comprends pas quand tu envoies Luqueba, tu t'envoies Gusto, t'envoies Bradley, Barcola. Tous tes meilleurs joueurs, tu les laisses partir. Mais comment tu vas avoir des résultats?
Je pense que c'est aussi
pour finir, je pense que Jean-Michel Aulas, il a calculé son coût. Il savait très bien ce qu'il allait se passer. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Luqueba. Il a dit on voulait me vendre, ça fait des années qu'on voulait me vendre.
Donc Luqueba,
il a tout dit dans son interview.
Aulas avait mis les noms
des joueurs qu'il allait céder.
Donc il le savait.
Avec un prix en...
Et puis là, là on est dithyrambique. Jean-Michel Aulas, c'est numéro 1 du football français.
Moi, j'ai jamais dit
comment
ça.
Comment le mec mais... bah, non, c'est vrai. Bah, moi, excuse-moi,
moi,
mais.
Moi, personnellement,
ouais, je n'ai jamais dit ce que tu as dit.
Avec sa mère.
Jean-Michel Aulas, c'est un grand personnage du football français.
C'est un président de l'histoire.
Pour moi aussi, c'est un grand personnage.
Sur la toute fin de l'histoire, je pense
que c'est un peu.
Mais c'est parce qu'il était dos au mur économiquement, c'est pour ça.
Mais il le savait. Avec toute l'intelligence qu'il a, avec la personnalité qu'il a, c'est le numéro 1 du football français, Jean-Michel Aulas. Il cède à un moment son club, c'est pas pour rien. Il sait très bien ce qui se passe au sein de son club.
On va marquer d'une courte pause. Samir, on retient, on va marquer d'une courte pause et on reviendra avec les auditeurs, les auditrices de Beurre FM au 01 53 48 3000 à de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur ce plateau, Nabil avec Mourad, ben, on réveillait avec Samir aussi, il ne faut pas l'oublier, Toto Bellozzo et de la partie, on parlera de ce fameux documentaire qu'il nous a concocté, sans oublier Hanan, on a de la visite aussi dans ce magnifique plateau de Beurre FM.
Oui, il y a notre fameux Ali, réparateur de téléphone, fin de concept.
Ben voilà. Ah ben c'est bon,
si
vous voulez
d'enlever les écrans, de changer les écrans,
ben
etc.
C'est bon. Voilà, c'est ça. Ah ben allez, voilà, on donnera toutes les infos.
À Montigny dans le 118.
Dans le 78.
Il n'y a pas quoi faire dans le plateau, parce que moi j'ai envie de faire un petit dégradé
dans la vitrine. On a quelqu'un qui frappe à la porte si tu veux te faire le contour, Toto.
On est avec Solar. C'est du live. Et on est sur Beurre FM, le 01 53 48 3000. Alors on prend justement la direction du standard. C'est parti avec Farid. Il en pense quoi, Farid? Des réactions des consultants ce soir autour de la table. Bonsoir, Farid.
Bonsoir Bilal, bonsoir à tous.
Comment ça va, Farid? Ça a beaucoup parlé, ça a critiqué aussi Textor, hein. Je sais pas, ça a aussi les supporters et bon
ouais,
et ce club qui est l'Olympique Lyonnais.
Bah d'un côté, ça me fait plaisir parce que je me dis que Lyon quand même voilà, amène beaucoup de discussions, ça veut dire que quand même les gens suivent énormément notre club, donc c'est très bien. Mais en même temps, je trouve très alarmant certaines déclarations, certains avis. Il faut pas s'alarmer à ce point-là. C'est vrai que Lyon est dernier du championnat, mais on n'est qu'à 4 journées de la saison et il faut savoir qu'on est vraiment dans une phase de transition puisqu'il y a eu un changement de propriétaire. Je trouve qu'on est un peu dur avec John Textor. Je pense pas qu'il fait n'importe quoi. J'ai l'impression
le problème, c'est qu'ils sont derniers, certes, mais on voit rien qui nous laisse espérer quelque chose de positif. Là, pour l'instant, dans le jeu, dans même, excusez-moi, mais grosso, l'entraîneur, il a peu d'expérience, etc. Il avait fait pas mal de clubs, mais on me l'a rappelé que c'était de série B. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux espérer de cette équipe-là avec un entraîneur qui est aussi peu expérimenté?
Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il soit un bâtisseur. C'est un tacticien à l'italienne. C'est vrai qu'il a fait une très grande saison avec en série B là.
Le passeport, c'est pas une qualité, Farid. Hein.
Oui, tout à fait. Mais après, il n'est pas dit qu'un grand entraîneur forcément vienne à Lyon. À Lyon, il y a un contexte. Hein, il faut le rappeler. Il y a un contexte qui est et surtout en plus en ce moment la maison elle est un petit peu en.
C'est pas l'Atlético Madrid non plus, Farid. Il faut un minimum. Je pense que c'est un équilibre. Et il faut aussi vous en tant que supporter peut-être revoir vos standards à la baisse. On le disait tout à l'heure en off, j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais a des attentes tellement énormes, mais en fait,
oui,
vous êtes redevenu un club moyen bon. Tu vois, un peu comme Arsenal, un peu en Angleterre, où les fans d'Arsenal voulaient aller titiller Liverpool, Manchester City, Chelsea, mais ce n'était plus un grand club. Ils n'étaient plus à la hauteur, que ce soit financièrement, que ce soit d'un point de vue recrutement, que ce soit au niveau du jeu. Il faut une période de transition, patienter, un peu comme le fait Arsenal aujourd'hui, pour pouvoir revenir. On a l'impression que du côté de l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas cette transition. Après, peut-être que derrière Fabio Grosso, il y a un Arteta caché, j'en doute. Mais voilà, attendons.
Mais je pense revenir au standard à la baisse. Mais après, on a un paradoxe à Lyon. C'est comme tu disais, Lyon, ça reste quand même un grand club en France, mais aujourd'hui avec une petite équipe. De par ses résultats, de par le contenu. Moi, je peux vous garantir que les supporters lyonnais n'attendent qu'une seule chose aujourd'hui, c'est du jeu. Ils veulent voir du jeu, un plan de jeu, un schéma de jeu, tout ce que vous voulez, mais ils veulent voir quelque chose sur le terrain. Et c'est le gros problème aujourd'hui, et ça dure depuis pas mal de temps, c'est une catastrophe. Moi-même, j'ai assisté à Lyon-Montpellier au Groupama Stadium, d'ailleurs c'était ma première, et j'ai halluciné. C'est là où j'ai commencé à me retirer un petit peu de mon soutien par rapport à Laurent Blanc, parce que je comprenais rien. Il n'y avait rien, c'était le néant total. Et ça, c'était hallucinant, quoi. Et pourtant, il y a des bons petits joueurs. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec Laurent Blanc, il a manqué, et il manque des joueurs d'expérience. On ne peut pas jouer le podium avec 7 ou 8 joueurs de l'académie, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'était malheureusement suite à la politique de la construction du grand stade.
Alors Farid, avec Samir, la réaction. Voilà. Farid, l'auditeur avec Samir.
Farid, j'ai deux questions.
C'est pour une réaction.
Farid, j'ai deux grosses questions à te poser. La première question, alors moi, voilà, je suis évidemment, comme tous les amateurs de Ligue 1, le championnat, je vais peut-être être un peu dur avec toi. L'Olympique Lyonnais est pas beau à voir jouer. Enfin, je pense que tu en as conscience de ça.
Oui.
Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui, moi je pense qu'à tous les étages ça ne va pas à l'Olympique Lyonnais, c'est mon avis, hein. Évidemment j'ai pas la science infuse, peut-être que tu vas m'apporter des arguments qui vont me contredire et je suis à l'écoute. J'ai deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que en tant que supporter lyonnais aujourd'hui tu as à me dire comme argument positif pour être optimiste en fait sur la suite de la saison. Et la deuxième question en gros, c'est aujourd'hui, à ton avis, la cible prioritaire, tu ciblerais qui pour le fait que ça va mal aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais? En fait, tu taperais sur qui en priorité? Alors, cite-moi quelque chose de positif aujourd'hui qui te fait espérer que ça va aller mieux à l'Olympique Lyonnais. Et s'il te plaît, aujourd'hui, c'est la faute de qui si ça va mal à l'Olympique Lyonnais?
Alors moi, il y a un point qui est très important à Lyon, c'est le temps. Il faut être patient, mais en même temps, on n'a plus trop le temps. Mais cela dit, moi, ce qui me rassure un petit peu avec John Textor aujourd'hui, c'est qu'il a annoncé des choses, il commence à les réaliser. Il avait parlé de la création d'une cellule de recrutement avec expertise, c'est ce qu'il a mis en place. Il a amené, par exemple, Mathieu Louis-Jean avec tous ses composants, donc il a changé quand même la cellule de recrutement à Lyon. On a vu quand même cet été, il y a eu, je crois, un peu plus de 15 départs. Si je ne me trompe pas.
Il a même mis un patron de fonds d'investissement, entre guillemets, c'est le champ lexical qu'il emploie, président exécutif Santiago Cucci. Toi, qu'est-ce que t'en penses, par exemple? Commençons par le haut. Non. Bien sûr qu'il va valoriser tous ses actifs, qu'il va vouloir faire du trading, et pour ça, il va mettre en place de la data, il va recruter les meilleurs scouts possibles d'Europe, etc. Là, j'ai vu que même sur la page LinkedIn du club, il y a plein de recrutements qui se font au niveau du tertiaire, responsable marketing, event, etc. Il veut faire valoriser le club à son maximum. Mmh. Mais c'est pour faire du trading. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça va changer sur le terrain? C'est ça la question.
Bah oui, mais le trading, de toute façon, pour que ça marche, il faut que ça marche sur le terrain. Vous ne pouvez pas vendre des joueurs s'ils ne sont pas bons sur le terrain. Alors, donc forcément, on est obligé d'avoir un projet sportif sur le terrain.
Farid, on va terminer avec Toto Bellozzo. On a beaucoup de personnes, on a Khalid aussi, on a Sofiane depuis Lens qui nous appelle.
J'aimerais juste rebondir sur ce qui est dit en plateau à propos de Fabio Grosso. Je trouve que vous êtes un petit peu dur avec lui. Non pas dans le sens où il a déjà fait ses preuves, mais qu'un entraîneur qui sort de nulle part, on a déjà vu, faut pas oublier que par exemple Arrigo Sacchi arrivait de Serie C avant de prendre le Grand Milan et de construire ce qu'on sait qu'il a construit derrière. Les seules choses que je sais de Fabio Grosso, et là où on peut être optimiste pour l'Olympique Lyonnais, c'est que c'est déjà un entraîneur passionné. C'est un entraîneur qui, alors sa culture football italienne, elle est indéniable. C'est quelqu'un qui, au-delà de vouloir
meilleure attaque, meilleure défense, voilà, avec Fossiloné,
mais clairement, on n'est clairement pas dans un style d'entraîneur qui va vouloir une possession stérile. Il est beaucoup dans la verticalité. Et ça, on connaît, c'est le style italien.
Ça, je
maintenant, voilà, de tous les témoignages qu'on a pu avoir des clubs dans lesquels il est passé, que ce soit en Italie ou même en Suisse, c'est que c'est quelqu'un qui est passionné et qui met une âme dans l'équipe. Et je pense, alors je vais jouer la carte un petit peu spéculative, je pense que Fabio Grosso peut être l'homme du renouveau qui va insuffler quelque chose, d'autant plus que le club ne lui est pas totalement inconnu, c'est quand même un ancien pensionnaire du club. Donc je reste assez optimiste concernant Fabio Grosso, concernant ses idées de jeu qui vont pouvoir se mettre en place sans avoir forcément de gros effectifs, parce que quand on joue d'abord sur une assise défensive avec des grosses transitions, on a la capacité de pouvoir le faire. Enfin, Lyon a la capacité de pouvoir le faire.
Moi, tu sais pourquoi je suis pas fan de Fabio Grosso? Excuse-moi, Toto. C'est indépendamment de tout ce que tu viens de dire,
je pense que tu veux parler de l'équipe nationale.
Exactement. Ouais. C'est qu'il avait fait de l'ombre à l'époque à Nadir Belhadj. Juste parce qu'il avait un statut de champion du monde avec l'Italie. Nadir Belhadj était au-dessus de Fabio Grosso à l'époque. Et je ne sais pas pour quelle raison, pour des raisons de statut sûrement, il avait fait de l'ombre à Nadir Belhadj. Qui c'est un TGV sur son côté.
Ça fait mieux de mettre un international italien qu'algérien.
Exactement.
Merci, Farid. On passe à Khalid, justement, qui nous appelle depuis la région parisienne. Peut-être pour réagir. Bonsoir Khalid sur l'Olympique Lyonnais.
Bonsoir les gars, comment ça va?
Ça va très très bien.
Oui, très bien.
Salut Khalid.
Il fallait juste intervenir, en fait, vous savez très bien, aujourd'hui, le problème de l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas du tout le patron, ce n'est pas du tout le peuple ou les supporters. Il s'avère que, depuis que le président, Olas, depuis qu'il est parti, voilà, ça se passe très mal.
Mais c'est symptomatique. Symptomatique quand tu regardes l'après Giroud, l'après.
C'est ce que j'ai envie de dire.
L'après Tapie, l'après ce que tu veux.
Arrête un peu, mais Mourad, quand même. L'après tu peux pas dire ça. La traduction, Mourad.
Mais l'après départ d'Olas, ça a été préparé. Non. Olas, franchement, moi je suis parisien. Je suis à fond, je suis parisien. Et franchement, Olas, le départ de Olas, ça n'a pas été préparé.
Il n'a pas été préparé parce qu'il a été viré. En fait, l'idée de départ, c'est qu'il reste 3 ans justement au sein du club et de pouvoir justement préparer cette transition-là. Mais il s'avère que Textor l'a viré au bout de 6 mois. Et là,
regarde, depuis qu'on connaît le foot, depuis qu'on regarde sur l'équipe des Humans et tout ça, on était tous devant la télé à regarder qu'est-ce qu'a fait l'Olympique Lyonnais. On a oublié qu'on, l'Olympique Lyonnais, on tapait le Bayern, je sais pas, en 94.
C'est aussi bon, depuis Point Zagreb,
c'était le PSG.
L'Olympique Lyonnais, on rêvait
de
ça. On était supporters de d'autres joueurs. On aimait l'Olympique Lyonnais parce qu'ils avaient un président qui était là, qui répondait, qui avait en fait, il avait la politique d'avoir une bonne école, qui vendait des joueurs. Je sais pas, il y avait l'auditeur qui avait parlé d'Arsenal. Arsenal, ils ont rien gagné, mais ils sont pas crédités, ils sont pas en dette, ils gagnaient pas de championnat. Arsène Wenger, il a passé 20 ans ou je sais pas combien de temps, il a rien gagné, mais le club il est pas endetté. Mais pareil, l'Olympique Lyonnais, c'est pareil avec Olas. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je peux vous dire, moi qui suis à fond, je suis parisien, moi, Laurent Blanc,
je veux
dire, Laurent Blanc, c'est une vraie bêtise.
Laurent Blanc, c'est une vraie bêtise. Ouais, ben voilà, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Khalid. Ben oui, il y en a tout comme vous.
Il
n'a
rien fait.
Khalid,
il a rien fait.
Même au
Qatar, il a rien fait. Il s'est
fait virer. Non, mais moi, je te dis ça, autant que parisien, moi, je te dis, depuis, moi, je suis abonné au. Moi, je vous l'ai déjà dit, je regarde, je suis abonné au PSG. Je te jure, depuis que Laurent Blanc il est parti, j'ai jamais vu un jeu technique, tactique, marqué des têtes, des centres. On n'en a pas vu depuis que Laurent Blanc. On est en train de voir maintenant avec Lucien Riquet, mais virer Laurent Blanc de Lyon, je te jure, c'est une grosse bêtise.
Grosse bêtise, selon Khalid. Un grand merci, Khalid, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. Au 01-53-48-3000. Allez, on va essayer. Non, il était super, Khalid. On va essayer d'avoir
Sofiane.
Moi, je veux bien que l'auditeur, il apprécie Laurent Blanc. Mais ça fait des années que Laurent Blanc, il est has-been. Je suis désolé. Alors, Ryan, ils l'ont viré. Il a rien fait. Il était dernier. Il avait des joueurs. Il a rien fait du tout. Là, il revient à Lyon. Effectivement, il connaissait le contexte, mais il avait quand même des joueurs. Quand t'arrives, je sais pas, moi, dixième, et il y a d'autres équipes qui ont un budget moindre et ils te dépassent, c'est qu'il y a un problème.
Il y a un problème.
Et dans le jeu, Laurent Blanc, excusez-moi, mais il y a Wallou.
Non, mais le Paris,
il y a Wallou aussi.
C'est de se dire que tous les entraîneurs qui sont passés par Paris Saint-Germain ont gagné la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe ensuite, ils pensaient faire la même chose peut-être avec.
Et puis non, honnêtement, on n'est pas dur avec Laurent Blanc. On a été très très dur avec Peter Bosch. Il a été décrié, je suis désolé. Ouais, à Lyon, ça fait. Mais si, avec Peter Bosch aussi, c'était la même chose. Pourtant, il y a des fois, ça jouait bien au ballon. Il est venu justement pour la formation, pour le jeu à la hollandaise, etc. Finalement, rien du tout.
Il y a un facteur. Et Khalid,
là, il y avait Christophe Galtier.
Il y a un facteur.
Tu veux un coach français
au
niveau Christophe Galtier.
Tu aurais pris ça. Sabri Lamouchi.
Sabri Lamouchi également.
Mais là, tu prends grosso. Il y a un facteur très important, c'est le temps. Et Lyon, on n'a pas le temps parce qu'ils
couvrent. Mais ça fait des années qu'on attend Lyon.
Ils sont dans la multipropriété et Textor n'est pas là pour avoir le temps.
Mais attends, je suis désolé.
Générer des bénéfices le plus rapidement possible.
On est d'accord, c'est pour ça qu'il y a Molenbeek,
Christophe Palace et Botafogo. C'est un schéma financier en fait.
On a
pas des clubs.
Ils ont vendu.
En fait, c'est juste un organigramme. C'est un club qui va en servir un autre et un autre qui va en servir un autre.
Ils ont quand même
ça. Malheureusement, c'est pas l'Olympique Lyonnais. Là, c'est Crystal Palace.
Tu parles d'argent, mais Kartoko, il est parti pour 1 million et quelques. Moussa Dembélé également. Et là, tu disais l'année dernière, ils n'avaient pas de joueurs, etc. Mais c'est des internationaux là qu'on cite là. Il avait des joueurs expérimentés.
Il y a eu des problèmes de relation avec les supporters.
Tolisso, Lopez. C'est là que l'humain prend dessus sur le business.
Des internationaux, mais qui n'ont rien montré sur le terrain. Sportivement parlant, ils étaient.
Mais lorsqu'il a fait jouer ces jeunes, Barcola, Ryan Cherki, parce que Ryan Cherki, l'année dernière, il était souvent remplaçant, je suis désolé, c'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux. On retrouve Sofiane, depuis Nantes. Il aimerait réagir avec l'équipe de Tamsport. Bonsoir, Sofiane.
Ah, bonsoir à tous, salam alaikum.
On vous écoute, Sofiane, sur Lyon.
Ah non, moi je voulais. En fait, c'est vrai que Peter Bosch c'était du travail de pro, mais moi je voulais parler de Jamel Belmadi.
Ah, Jamel Belmadi, ok. Là on n'est pas Jamel Belmadi, excusez-moi. En plus, on fait pas. Non, il n'y a pas de problème.
Peter Bosch, du travail de pro.
Il a l'air très sympa, Sofiane. Mais là, on peut pas enchaîner sur le Jamel Belmadi, même si l'Algérie a joué hier.
Tu voulais quoi? Tu voulais Jamel Belmadi à l'OL? Tu voulais quoi?
Ouais, mais là.
C'est pas une mauvaise idée.
Non, c'est pas une mauvaise idée, bien sûr. Bien sûr, c'est pas toi qui fais le conducteur. Mais allez-y. C'est du live. On est là avec toute la direction.
C'est les aléas du direct.
Allez-y, c'est les aléas du direct. Oui, j'ai cru sur une sienne mensuée, mais ça fait rien. Allez-y, Sofiane, on vous écoute. Hein, bien sûr, voilà. C'est Mourad, il est toujours comme ça. C'est tacle à la gorge glissé, bien serré.
Hein, à la Nicolas
Palois. Hein. Non, pas Palois, moi j'aurais dit Eric Dimeco ou Carlos Moser. Sofiane, on vous écoute sur Belmadi. Je suis sérieux sur Belmadi. Allez-y.
Vous avez un quart d'heure.
Non, sur Belmadi, moi je pense que là, il se fait sèchement critiquer par tout monde en ce moment, surtout par les médias algériens. Et là, aujourd'hui, Belmadi a su remettre l'équipe sur les rails, justement, et entre guillemets, fermer la bouche à beaucoup de monde. Belmadi, je pense qu'aujourd'hui, à part Belmadi, je vois personne d'autre prendre les rênes de l'équipe nationale. Et par rapport au dernier match contre le Sénégal, ça a été rassurant pour non seulement pour les joueurs, et aussi pour les supporters, je pense.
Ah ben on l'espère, en tout cas. Oui, rapide.
Bouguera, non, tu le vois pas, tu vois pas Bouguera prendre la succession à Belmadi?
Allez, c'est Nabil pour Sofiane.
Franchement, pas tout de suite. Autant Bouguera, j'aime beaucoup, c'est un super joueur, etc. Il fait bon travail avec l'équipe A prime, mais je pense que c'est encore un peu juste pour prendre l'équipe première.
Sofiane,
entièrement d'accord.
Vraiment intéressant, Sofiane.
Rapidement, pour rejoindre Sofiane, ce que tu dis. Alors, je tiens quand même à préciser, pour prendre des gants, je suis ni pro Belmadi ni anti Belmadi. Je suis un supporter inconditionnel de l'équipe nationale d'Algérie. Mais là où je peux te rejoindre, c'est que je ne comprends pas un peu les polémiques qu'on lui a mis sur le dos, l'état des pelouses, ce genre de choses-là. Il n'y a pas de président de la Fédération algérienne de football. Il est lésé à lui-même. Je pense que son rôle, ce n'est pas de s'occuper de tout à tous les étages, de A à Z en équipe d'Algérie, et qu'il faut qu'on mette et le sélectionneur national et les joueurs dans les meilleures dispositions pour aborder, entre guillemets, les rencontres de la meilleure manière, et la grosse compétition à venir, la CAN. Donc, pour te rejoindre, la polémique des pelouses, je la comprends pas du tout concernant Jamel Belmadi.
Sofiane, moi non plus. On n'a plus le temps, mais on se retrouve pourquoi pas dès demain ou même dans les jours prochains. Un grand merci, vraiment une belle réaction, Sofiane. On a bien fait de parler avec vous de Belmadi.
En tout cas, vous avez une belle équipe. Et si vous refaites un sujet spécial équipe nationale, je reviens direct.
On va le faire. On prend rendez-vous avec Sofiane. On va regarder son numéro de téléphone.
Il faudra
le
faire pour parler de Lyon.
Pas que de l'équipe nationale, de toutes les équipes nationales aussi.
Il y a une grosse communauté algérienne à Lyon aussi.
Bien sûr, de partout. Ouais, c'est ça, Mourad.
Allez,
merci, Sofiane. Il a été avec nous. C'est un auditeur au 01 53 48 3000. La dernière partie, on reviendra sur un fameux docu sport et sans oublier aussi le cas de Paul Pogba.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 37 minutes, avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h, comme chaque soir, rien que pour vous, chères auditrices et auditeurs. Voilà, vous faites comme Farid Khalid ou encore Sofiane depuis Lens, dans le nord de la France, à avoir appelé en composant le 01 53 48 3000. Allez, place maintenant à ce fameux documentaire.
Time Sport, la parole des sociaux.
Oui, c'est notre Tarantino, non? Je dirais plutôt George Lucas ou même Steven Spielberg, voir un peu, peut-être dans les dialogues, Jacques Audiard, Michel Audiard, son illustre père, hein, dialoguiste, vraiment avec des numéros incroyables sur le cinéma français, et pas que. C'est Toto Bellozzo, justement, notre consultant. On revient après Raymond Coppa, avec ce fameux documentaire, et là c'est un nouveau documentaire. Ouais. Tu as pu teaser cela sur les réseaux sociaux, et là cette fois-ci c'est bien empaqueté, c'est bon, c'est dans la boîte.
Je devais sortir le documentaire demain.
Aïe.
Malheureusement, il y a des aléas au niveau des droits et je vais devoir repousser un petit peu la date de la sortie du documentaire qui est destiné à être sur les réseaux sociaux, sur mes médias Golazo TV. Mais ça va nous permettre de pouvoir organiser une petite avant-première entre-temps. Et justement de pouvoir inviter déjà toute l'équipe.
Il y a beaucoup de monde qui aimerait venir aux avant-premières de Toto Bellozzo. Nabil n'est jamais venu, hein, il faudrait qu'il vienne. Parce que vraiment, il y a du beau monde et aussi c'est assez éclectique et intéressant.
Moi, j'ai eu la chance d'y assister.
Voilà, j'étais Mourad. J'étais venu.
Lors de la présentation de son extraordinaire documentaire sur Raymond Coppa.
Je sais que c'est un des meilleurs réalisateurs, Toto Bellozzo. Donc j'essaie de me rapprocher de lui pour avoir une invitation pour le prochain documentaire.
Bah écoute, vous serez servi. En tout cas, voilà, pour parler un petit peu du documentaire qui s'appelle 450 grammes. 450 grammes qui est le poids.
Alors,
je vous pose la question. Le poids de quoi?
Le poids
d'un ballon.
D'un ballon de foot.
Du
exactement.
Ballon de foot.
Donc, c'est un documentaire qui s'appelle 450 grammes, le poids de la passion. Et c'est un documentaire qui. Alors, ça va être une série documentaire sur plusieurs volets. Et qui va arpenter un petit peu la France pour parler de la passion du football, mais aussi de ses dérives. Parce que malheureusement, je fais le constat, comme beaucoup d'autres, que le football a tendance à avoir des penchants un petit peu tendancieux, un petit peu, voire même dangereux parfois, au niveau du football amateur qui selon moi, se pervertit de plus en plus vis-à-vis du professionnalisme, de l'appât du gain, de l'argent. Alors, c'est pas un pan de la société football que j'incrimine, c'est toute la société football que j'incrimine, que ce soit les parents qui justement sont concernés dans le premier volet. Les parents, il y a de plus en plus de grosses problématiques sur les terrains amateurs, même voire de très très jeunes joueurs.
Il y a des choses qui ne devraient pas se passer.
C'est-à-dire sur quoi? Sur des transferts, sur des agents, des business avec des clients.
Les projets Mbappé,
les réactions, des parents sur les côtés qui misent beaucoup sur leurs enfants.
Mais c'est pas de leur faute. Moi, je suis désolé. Je vais pas incriminer les parents. Juste une chose. Il faut avoir cette réflexion. C'est qu'à 13 ans, t'as le concours INF Clairefontaine. Donc déjà, à 13 ans, à Clairefontaine, t'as tous les recruteurs qui viennent. Dès 13 ans.
Et donc, t'es déjà tout en haut de la pyramide.
À Clairefontaine.
Non, mais juste pour finir.
Est-ce que tu vois les clubs dans lesquels ils sont issus?
Non, mais j'aimerais bien.
Juste pour finir. Justement, c'est un raisonnement. Parce que moi, je suis désolé, mais voilà, je suis éducateur, entraîneur, etc. Et si tu veux, à partir du moment où t'as le PSG qui arrive à 12-13 ans, qui met des grosses sommes d'argent,
ça c'est pas faux.
Et les parents ils entendent, ou des éducateurs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'éducateurs de clubs amateurs qui sont agents de joueurs aussi. Qui sont agents de joueurs. Il y a même des journalistes connus qui sont passés agents de joueurs.
T'as des concierges, t'as des gardiens de stade.
Donc je peux pas incriminer les parents qui juste pour finir, les parents, je peux pas incriminer les parents parce que les parents n'ont pas le bagage. Ils ont pas les outils, les parents. Ils sont pas dans le milieu footballistique. Ils connaissent pas tout l'envers du décor.
Il va développer, je pense qu'il va
justement.
C'est pour ça que justement, je parle de série documentaire parce que on va aller sur tous les aspects du football autour du joueur et même au niveau du joueur. Là, le premier volet, c'est les parents. Et j'ai vraiment envie de mettre en image toutes les dérives et toutes les problématiques liées aux parents, parce que je suis désolé, quand je me déplace à Marseille dans un club parce que un éducateur s'est fait poignarder, quand je vais à Lyon parce que un papa est venu avec un flingue sur un terrain, là on arrive sur des pratiques, sur des façons de faire qui justement dépassent l'entendement. Mais c'est pas simplement soulever des problématiques, c'est aussi aller en profondeur et justement comprendre pourquoi. Alors dans les autres volets, on comprendra que justement le monde professionnel n'est pas complètement innocent de tout ce qui se passe et que malheureusement, et c'est ce que je déplore de plus en plus, parce que c'est pas non plus un documentaire qui est que négatif. Je veux aussi montrer le bon travail qui est fait dans les clubs, que ce soit Marseille, l'AS Vivo Sauvagère, Paris Alésia, c'est des clubs que justement où j'essaie de montrer le bon travail qui est fait. Et malgré ça, le comportement de certains parents qui viennent entacher tout ça. Et moi, ce que je déplore vraiment, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on aborde le football, que ce soit en U6, U7, U8, U9, jusqu'en U19, qu'à travers le prisme du professionnalisme. Et on oublie souvent que le professionnalisme en France, sur 2 millions de licenciés, sur 60 millions d'habitants, c'est 1000 joueurs. Et ça, il faut aussi savoir le rappeler. Et justement, ça va peut-être refroidir certains points.
David, rapidement,
parce qu'on va parler du cas Pogba aussi.
Moi, ça m'intéresse parce que je suis dans ce milieu-là. Donc, forcément, ça m'intéresse et ça me parle. Maintenant, malheureusement, il y a une forte demande. Comme tu as pu le souligner, il y a les parents, c'est vrai, il y a les éducateurs, il y a aussi les joueurs, les enfants, parce qu'ils ont plein de rêves. Et aujourd'hui, tu as les éducateurs qui jouent un rôle prépondérant. Parce que ces éducateurs-là, aujourd'hui, ils ont une rémunération. Et en plus de ça, ils donnent des cours particuliers. Moi, ce que je vois, il y a 10 ans de ça, j'ai entraîné au Paris FC, on n'avait pas ça. On n'avait pas l'éducateur qui donnait des cours particuliers à 20 ou 30 euros de l'heure sur des terrains de foot le dimanche, etc. Donc, à un moment donné, il y a une demande des parents, mais parce qu'on leur fait croire que leurs enfants vont signer, etc., il y a des grosses sommes d'argent. C'est ça aussi.
Je vais vous donner juste un exemple.
Un joueur concret, d'accord ? Imran. Imran qui joue à l'Olympique de Marseille. Moi, je l'ai connu au RC Joinville. Tu parlais de mon club formateur, le RC Joinville, juste à côté de la radio. On est à Charenton-le-Pont. Joinville-le-Pont. Qui forme beaucoup de bons joueurs. Imran, il était là. Il est passé à Joinville-le-Pont. Il a 18 ans. Il joue à l'Olympique de Marseille. Il a marqué d'ailleurs contre l'AEK Athènes, je crois. C'est lui qui a permis. Championnat. Il a marqué. Il a donné la victoire. Et lui, par contre, voilà, à 12-13 ans, il est parti à Chelsea. Il est parti en Angleterre. Parce que voilà.
Les parents, c'est l'argent.
Mais il y a les facteurs des recruteurs.
Mais c'est n'importe quoi. Est-ce que tu es d'accord que c'est n'importe quoi d'aller soit au Paris Saint-Germain, soit à Chelsea à 12-13 ans?
Ça fait parler. Moi, j'en ai connu. Je peux citer d'autres joueurs aussi.
En tant qu'éducateur, tu conseilles les parents, tu leur dis, ne lâche jamais pour aller à Chelsea au PSG.
Je vais recentrer les choses un petit peu.
Messieurs, pour terminer.
Parce que justement, c'est là qu'il va falloir être précis et concis, c'est que c'est volet après volet. Et je peux pas parler des éducateurs en même temps que je parle des parents, s'il y a un lien de cause à effet. Et le lien de cause à effet, il sera fait. Et justement, et ce documentaire-là.
C'est un très bon sujet, en tout cas.
Laisse-moi finir. Le documentaire, il s'attarde là sur le premier aspect, qu'est les parents, parce que c'est une accroche. Parce que le comportement complètement déviant de certains parents, on va essayer de l'expliquer justement derrière, avec les autres volets, avec justement le volet des éducateurs qui aujourd'hui ont une multitude de casquettes. Malheureusement, on est dans un football qui est complètement dévoyé de son sens premier au niveau amateur.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Qui est d'avoir une pratique, d'être. Enfin voilà, moi je le dis tout le temps.
Il n'y a plus le monde associatif.
Les clubs sont des lieux de consommation plutôt que des lieux de vie.
Non, moi, franchement, honnêtement, je suis d'accord avec toi.
Et ça, justement,
j'ai joué à Lugy Alpharville à l'époque.
Avec 450 grammes.
On faisait des balades.
450 grammes. Avec 450 grammes.
Mais il y a encore des clubs qui le font. Il y a encore des clubs.
Très, très
rare. J'ai une petite fenêtre de tir aujourd'hui pour pouvoir faire la promo du documentaire.
Alors.
J'aimerais pouvoir en placer au moins une.
Merci.
Quelque chose avec lequel j'y mets le cœur. Et n'oubliez pas une chose, c'est que vous avez face à vous quelqu'un qui fait tout seul.
Ouais.
J'ai pas de moyens.
Voilà.
Je fais tout avec mes couilles et mon envie. Non, parce que je veux vous dire, je vais mouiller dans cette histoire.
Ouais.
Parce que là, on est en train de parler, mais je vais mouiller et je vais aller très loin.
C'est très bien.
Je vais mouiller, je vais aller très loin. Donc moi, je suis pas là pour palabrer. Je suis pas là pour faire le beau. Je suis là pour essayer, à travers une réalisation audiovisuelle, essayer de, un tant soit peu, à mon échelle, faire changer les choses.
Voilà.
Sans avoir la prétention
de
pouvoir y arriver.
Justement, c'est super intéressant. Et tu vas te mouiller. Il y a beaucoup de personnes qui savent beaucoup de choses, mais qui ne se mouillent pas. Moi, j'ai hâte de voir ça, justement. Parce que
il y a une omerta sur le football, sur plein de sujets. Et malheureusement, en off, il y a beaucoup de gens qui parlent.
Eh oui.
Une fois qu'on se met en place pour pouvoir parler des choses, on en parle moins. Voilà.
Juste une suggestion.
Alors, suggestion, vas-y.
À l'image de Planète Rap, lorsque son documentaire il sort, on fait une semaine sur ça. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire.
On a fait beaucoup d'émissions à thème. On est les seuls à faire des émissions à thème.
En tout cas, Toto en partagera.
Mais c'est vrai.
Moi, je kiffe. Moi, franchement, 450 grammes, retenez bien.
Non, la vérité, moi, je kiffe. Parce que le souci aussi, il parle du rôle d'éducateur.
Du foot.
Mais moi, je vais vous dire une chose. L'éducateur, il est prépondérant. Pourquoi? Il est super important. Parce que le recruteur, quand il vient, il s'adresse à l'éducateur. Les parents, quand ils emmènent leur enfant, ils s'adressent à qui? À l'éducateur. Donc, à un moment donné, le rôle de l'éducateur est primordial.
Ouais, mais tu sais, il y a un truc qui n'y avait pas il y a 10 ans.
C'est bilatéral, les relations.
Autour du terrain.
Éducateur, tu peux pas discuter avec lui.
Avant, les agents sur la région parisienne, il y en avait peut-être 20, 30 qui étaient connus. Aujourd'hui, tu viens sur un terrain, le mec, il est en survêt, sacoche, casquette.
tu dis qu'est-ce que tu fais ? Je suis agent. Ouais. Aujourd'hui, n'importe qui peut
même les éducateurs aujourd'hui sont agents.
Je te dis, les éducateurs sont agents. Les éducateurs sont importants dans un sens comme dans l'autre, soit pour accélérer la carrière d'un joueur, soit pour l'inverse. Moi, je t'en parle en connaissance de cause. J'étais petit, là, j'ai Auxerre sont venus parler de moi à Brétigny-sur-Orge. J'étais à Brétigny, mon coach m'en a jamais parlé. J'ai joué à 17 ans en CFA Viry-Châtillon, Tours en Ligue 2, faisait que d'appeler Viry pour moi. J'ai jamais été tenu au courant. D'accord ? Donc l'éducateur avait un rôle de merde vis-à-vis de ma personne à ce moment-là. Donc dans un sens comme dans l'autre.
C'est pour ça que j'ai insisté sur ce point et son reportage.
On le retrouve sur 450 grammes avec Toto Bellozzo, justement. On aura toutes les informations sur les réseaux sociaux. C'est ça.
C'est ça, Golazo TV.
Voilà.
Et Beurre FM.
Ah ben voilà. Hein, avec l'émission Time Sport. La dernière rubrique de cette émission, on y va rapidement.
Time Sport, le mode pressing.
Il y a toute l'Ovalie qui nous écoute, mais ça fait rien. Ce soir, on place à Paul Pogba. On en parlait avec Mourad, justement. Et il a été très, très fin, Mourad. On a eu pas mal de très, très bonnes réactions, justement, concernant Paul Pogba. On le rappelle, international français, testé positif à la testostérone. Et justement, et son clan, et même les personnes qui l'entourent, ont déjà préparé leur ligne de défense, comme le révèle la presse italienne, justement. Oui, Annan, il n'y a personne, là. C'est 450 grammes est parti. C'est fini pour Paul Pogba.
C'est fini pour Pogba.
Ouais, international français. Tout terminé. On plie, on part.
Oui, exactement.
Range tout.
Et puis c'est une bonne excuse pour le virer là. Non, c'est une bonne excuse.
Ça y est, il a mis sa carrière à la poubelle.
À la poubelle.
C'est terminé.
Ouais. C'est fini.
C'est
terminé pour lui.
Fini, moi aussi.
Moi, il y a une expression qui me rappelle un peu le cas Paul Pogba, c'est. À mon insu, malgré moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression de Richard Virenque. Et là, j'ai l'impression qu'elle colle tout à fait avec le cas Paul Pogba parce qu'il a pris une substance, en l'occurrence de la testostérone, et peut-être qu'il n'y avait pas d'intentionnalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, bien sûr qu'il est dans la panade, Paul Pogba, mais peut-être qu'il a été mal conseillé. Est-ce que par inadvertance, est-ce que forcément on doit le clouer au pilori comme actuellement?
Je suis désolé, Mourad, quand t'es professionnel quand tu prends ce type de médicament, t'es obligé de t'en référer au médecin de ton club.
Le praticien du club,
exactement.
Je connais le fonctionnement, mais il se fait accompagner par un médecin professionnel, en l'occurrence lorsqu'il est en dehors du club et il était en vacances aux États-Unis.
Mais
les axes d'amélioration ils sont du côté de l'UEFA aussi. Pourquoi pas sensibiliser les joueurs? Et on en a parlé la dernière fois, le dopage. Il est très présent dans le monde du sport et il est aussi présent dans le football que dans le cyclisme. C'est juste que il y a beaucoup moins de contrôle à l'échelle du football. Ouais. Et pourquoi ça tombe sur Paul Pogba comme par hasard? Est-ce que c'est parce que c'est le plus gros salaire de Serie A? Est-ce que c'est parce qu'il lui reste 3 ans de contrat? Je me pose la question.
Alors, c'est qu'il y a une question de football.
Ouais. Vas-y. On termine avec toi, Samir.
Qui ne vous dit pas que les médecins de la Juventus de Turin étaient au courant de ce qu'ils prenaient et qui ne vous dit pas que ça a même peut-être été conseillé par les médecins?
Peut-être.
Non, mais c'est ce que
Paul Pogba part. Verratti part aussi, Samir. Verratti, le Paris Saint-Germain, quelques secondes.
En quelques secondes, voilà, pour ses 11 ans de carrière, pour ce qu'il a apporté, il a toujours montré qu'il est amoureux du club. Il est arrivé super jeune, il a eu des performances incroyables au Paris Saint-Germain. Bon, voilà, moi, c'est pas une surprise, je suis supporter du Paris Saint-Germain.
Oui.
Moi, je pense qu'il part d'une manière ingrate, il est victime du milieu ingrat du football. Voilà. Par contre, s'il y a des supporters parisiens qui nous écoutent ce soir, vraiment, il faut que tous, on lui réserve vraiment une sortie incroyable juste pour ce qu'il a donné. Il y a des joueurs qui font des trucs de fou à des clubs en une année. Lui, il a donné vraiment de sa vie pendant 10-11 ans. Il faut qu'il ait une sortie. Merci. Et moi j'en veux pas du tout pour le match raté contre le Bayern la saison
avec
dernière.
Avec Mourad, rapidement, c'est la fin.
J'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu.
Et
je reconnais tout le talent de Marco Verratti, qui est vraiment un style de joueur que j'aime beaucoup. Moi je dirais juste que Marco Verratti est resté peut-être un peu trop longtemps au Paris Saint-Germain, part très tardivement. Et bizarrement, je trouve que par rapport à son talent, il lui manque vraiment quelque chose. Peut-être qu'il l'aurait trouvé sur quelque chose
Toto
en partant Bellozzo, ailleurs.
Mourad avec Marco Verratti que tu aimais tant.
Non, effectivement.
C'est la fin de l'émission.
Non, mais tout à fait. Pour Marco Verratti, en fait, moi, je voulais rebondir sur ce qu'ont dit Samir et Toto. C'est sur le statut de Marco Verratti par rapport à son départ. Moi, pour moi, il quitte le Paris Saint-Germain comme un joueur incroyable. Il a participé à l'essor du club, etc., etc. Mais pour moi, il part pas en tant que légende pour deux raisons. C'est ses stats et son côté décisif qui ont pour moi ont été insuffisants, et le fait qu'à chaque fois qu'on évoque Marco Verratti, on parle de compléments, pas de compléments alimentaires comme Paul Pogba, mais on parle de Thiago Motta, on parle de Jorginho en équipe nationale d'Italie, on parle de Barella, etc. Donc tout seul, Marco Verratti, ouais. pas trop. Mais quand il est dans un bon milieu de terrain, bien sûr que c'est un grand, très très grand joueur.
Allez, vous n'oubliez pas, chers auditrices et auditeurs, le second match de cette phase finale de la Coupe du Monde. Les Bleus rencontrent ce soir 21h, ça arrive à grands pas. L'Uruguay, on en reparlera dès demain sur l'antenne de Beurre FM, mais aussi dans la matinale. Vanessa arrive à grands pas, elle aussi, 21h, 23h. Et un grand merci à Samir, à Mourad, à Annan.
Merci Bilal, merci à tous.
Nabil, merci. Et oui, et avec merci toi, Toto Bellozzo, et les 420 grammes.
Hein, 450.
450. Ça fait rien, c'est du live.
C'est pas grave, voilà,
c'est du live. Un grand merci à la réalisation en la personne de Solal et aussi Ali de nous avoir accompagnés. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.